Salut à tous, on est dans la troisième partie du débat d'octet maintenant. Après avoir parlé des majors et de la situation de la musique, on va parler maintenant des nouveaux modèles parce que, il faut le dire, la situation dans Internet n'est pas une situation immobile. Beaucoup d'offres arrivent. Une des dernières années était, parce que je pense à ça, parce que j'avais vu une émission où vous aviez littéralement crucifié le modèle. C'est le modèle de Mozart, hein, qui est un site qui permet plus ou moins de rémunérer les artistes après les avoir téléchargés illégalement. Oui, donc vous aviez été invité sur Europe 1 et vous avez crucifié le fondateur de Mozart. D'ailleurs, le fondateur était pas très très bon, soit dit en passant. Enfin...
Non, mais il avait très peur. Il avait très peur. C'était la première fois qu'il faisait de la radio. Il arrêtait pas de le répéter. Et je pense qu'il était très impressionné de se retrouver sur Europe 1. Bon, voilà.
Oui, je pense.
Mais en même temps, ce modèle est un peu idiot.
Bah justement, parlons-en, parce que c'est pas inintéressant d'en parler. Comment est-ce que l'idée de Mozart est basée sur une étude qui dit que, en gros, plus de deux tiers des internautes qui ont téléchargé illégalement sont prêts à rémunérer les artistes dont ils ont aimé, c'est-à-dire je télécharge par exemple 50 titres, il y a 10 titres que j'aime, je les aurais bien payés. Et donc c'est ce que en gros propose Mozart, c'est-à-dire de pouvoir payer ces titres a posteriori du téléchargement.
Ouais, ça pose beaucoup de problèmes au niveau du droit français des artistes. Comme je vous dis, ça voudrait dire qu'on change définitivement le droit et qu'on n'est plus dans un droit exclusif d'autorisation, mais qu'on est dans un droit du don, mais du don a posteriori, c'est-à-dire du préjudice. Grosso modo, ça entérine l'idée que vous pouvez faire la quête quelque part, vous voyez, et que à votre bon cœur, monsieur, dame. Et le problème, c'est que justement, on a mis en place un droit exclusif en France au nom de l'artiste, hein, je le répète, hein, au nom de la sacralisation de l'art et de l'artiste et de son œuvre. Hein, c'est pas rien, hein, quand même, c'est pas juste comme ça pour se faire plaisir. Parce que justement, on voulait éviter que l'artiste soit dans une situation de précarité complète et qu'il ne vive finalement que des dons ou de mécénat. Voilà. Et donc, pour que l'artiste rentre dans une relation commerciale, on a mis en place ce droit exclusif, qui était quand même un droit fait pour défendre à l'origine la profession d'artiste. Voilà, ça c'est la première chose. Donc avec Mozart, on revient en arrière et on explique que, finalement, on serait dans une relation de dédommagement et du don, de la quête, quoi. Voilà, du quémandage. Moi, je me rappelle, sur Europe 1, j'avais expliqué qu'on quittait dans ce cas-là le droit exclusif pour être dans un droit de quémander. Ce qui était quand même assez dur. C'est vrai que malheureusement ça ressemble à ça. Puis après, la deuxième chose que Mozart m'a opposé, c'est de me dire oui, mais l'artiste qui accepte de rentrer sur notre réseau et donc sera dédommagé, finalement il accepte aussi et s'engage à ne pas attaquer l'internaute, parce que aujourd'hui on pourrait toujours l'attaquer. Mais ça, c'est complètement faux. Et pourquoi c'est complètement faux? Parce que Adopi, c'est une boîte noire pour les ayants droit. C'est-à-dire, il faut comprendre que quelqu'un un internaute qui est repéré par Adopi et qui est sanctionné par Adopi, l'ayant droit ne le sait pas.
De toute façon, ils savent.
Donc, à partir du moment où il ne le sait pas, le contrat moral ou le contrat d'impunité que propose Mozart est totalement inopérant. Il est inique. On ne peut pas le mettre en place. Donc voilà. Bref, il y avait quand même des grosses lacunes dans le business model de Mozart. Et d'ailleurs, je ne sais pas où ils en sont depuis. Donc voilà, on ne peut pas changer totalement le droit, quoi. Il vaut mieux, encore une fois, avoir un marché sain et conserver notre droit exclusif d'autoriser plutôt que de rentrer dans un système un peu alambiqué de dédommagement ou de préjudice subi. Voilà, là c'est un souci, quoi. Vraiment, c'est un souci.
Il paraît que la somme reversée par titre écouté par personne, alors donc la somme qui est reversée par titre écouté et par personne aux ayants droit est largement supérieure sur les sites de streaming gratuits qu'à la radio. C'est info ou intox?
Ça dépend comment vous calculez, mais il est vrai que nous on a fait des papiers sur Électron Libre d'ailleurs, des très bons papiers de Philippe Astor sur le sujet, qui vous expliquent que si on prend ce qu'on appelle le contact d'une radio, c'est-à-dire sur un an, vous prenez tous les gens qui ont écouté au moins une fois la radio, vous obtenez des chiffres hallucinants, hein, genre plusieurs milliards, et que vous mettez ça en correspondance avec la rémunération équitable, c'est-à-dire la part du chiffre d'affaires des radios qui revient aux ayants droit, et que vous faites donc la fraction de l'un sur l'autre, vous obtenez un chiffre par écoute qui est inférieur à celui que Deezer, par exemple, ou Dailymotion, non pas Dailymotion, Deezer surtout, reverse aux ayants droit. Oui, c'est vrai. Mais après, en valeur absolue, ce que les radios versent aux ayants droit est bien supérieur à ce que reversent les sites de streaming, parce que l'audience globale de la radio est bien 100 fois supérieure à celle d'un site de streaming.
D'accord, j'avais
C'est
oublié ce que je voulais dire.
compréhensible, c'est clair?
Ah oui, c'est totalement compréhensible. Pour le
Bon,
coup, oui, non, mais je voulais dire pour Dailymotion, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, ils viennent de signer un contrat avec la Warner
tant mieux. Ouais.
pour une diffusion exclusive de leur vidéo. Et en fait, ça ne marche pas sur
Non, non,
des.
pas exclusive. Non, c'est
Non,
une
c'est pas
diffusion, mais
exclusive.
pas exclusive. Non, non.
Donc en fait,
Dailymotion n'a aucune
Dailymotion ne verse pas
exclusivité.
une. Donc Dailymotion ne verse pas une somme à Dailymotion par vidéo vue, mais en fait Warner prend un pourcentage des bénéfices de Dailymotion.
Dailymotion, en effet, n'accepte pas de faire du pay per play, c'est-à-dire une chanson passe et boum, vous prenez dessus. Ils font ce qu'on appelle un revenu sharing, donc ils partagent les revenus publicitaires des pages sur lesquelles il y a l'affichage de cette vidéo.
Question suivante, comment ça se fait que les majors, enfin je veux dire les maisons de disques, récupèrent 70% des produits de la vente d'une chanson, d'un album sur iTunes, quand l'auteur, enfin par l'intermédiaire de la SACEM, n'en touche que 7%? C'est moi qui ai mal lu ou c'est vraiment une réalité?
Le ratio 70-30, c'est-à-dire quand vous achetez une chanson 99 centimes, il y a vous enlevez la TVA, tout ça, et il reste 70% du prix va à la maison de disques et 30% vont à iTunes, enfin à la plateforme. Et en fait, ce prix, cette répartition des prix a été une répartition conséquence d'une négociation entre Apple au tout départ et les maisons de disques. Et les quatre grosses maisons de disques sont rencontrés et qui ont discuté, qui ont estimé que 70% revenant aux majors, c'était très bien. Et puis ensuite, Apple a été voir en France Bernard Millier à la SACEM au début, hein, en 2003, et ils ont négocié à ce moment-là un contrat, et sur le contrat, les droits d'auteur et éditeur ont été estimés à 7% du prix global avec un plancher à 7 centimes. Donc, c'est-à-dire que s'ils vendent moins cher que 99 centimes, la chanson, il touche toujours 7 centimes. Non, c'est 8% et 7 centimes, pardon. Je me trompe. Je crois que le quotient, c'est 8%. Et le minimum, le plancher minimum, c'est 7 centimes. Je crois que c'est un truc dans le
Il y a la
genre.
TVA sur iTunes.
Oui, tout à fait, il y a 5% de TVA.
C'est bizarre parce que, enfin, c'est peut-être moi qui délire, mais dans pas mal de sites internet, il n'y a pas de TVA.
Ah non, non, pas du tout. Non, non, le commerce sur Internet et la TVA est applicable. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de différence. Et la TVA sur iTunes, je crois que c'est 5,5. C'est une TVA qui est liée au fait que iTunes Europe, hein, est basée au Luxembourg. Donc, ils payent la TVA du pays dans lequel ils sont hébergés. Donc, c'est 5,5%.
L'écriture de votre livre remonte à fin 2009 maintenant, si je ne me trompe pas.
Il a été fini, il a mis un an à être écrit. Mais ouais, je l'ai fini en octobre ou novembre 2009. Je sais
Donc
plus
c'était
exactement.
avant
Après, il y a
l'annonce
deux
des
mois de
solutions.
fabrication.
Ouais. Donc
C'était
c'était
avant quoi?
avant l'annonce des solutions trouvées par Patrick Zelnick pour relancer la consommation de musique dans le cadre de la loi Hadopi. Hein.
Ouais, moi j'avais fait quelques paris sur cette commission dans le bouquin.
Justement, j'aimerais bien
Voilà,
avoir
j'avais
votre
dit.
réaction sur les solutions trouvées.
laquelle précisément? Parce que il y en a
Par exemple, la carte
plusieurs.
musique jeune, à tout hasard.
La carte musique jeune, pour moi, elle se trompe sur une chose. Elle aura peut-être un effet, hein, je dis pas le contraire. Alors un effet cadeau, un peu comme les cartes cadeaux sur iTunes. C'est-à-dire que des parents, des grands-parents vont acheter ces cartes-là pour leurs enfants. Voilà, ça c'est clair qu'il y aura un effet de ce côté-là. Et je pense qu'une fois qu'on leur a acheté la carte, ils vont l'utiliser. Bon. Après, là où elle se trompe, c'est qu'elle pense que le marché dématérialisé, c'est un marché de jeunes. Alors c'est faux. L'acheteur moyen sur iTunes, il a 36 ou 39 ans, je ne sais plus exactement. Mais enfin, il est plutôt âgé. Parce que avoir un iPod, avoir un iPhone, c'est pas un truc qu'on a à 15 ans, quoi. Et donc, quand vous voulez les remplir de musique, et la plupart du temps vous le faites avec de la musique légale, et bah, faut pas avoir 15 ou 16 ans. Donc, est-ce que venir chercher ce marché-là et venir chercher cette cible-là, c'est un intérêt pour le marché du disque ou c'est pas certain? Encore une fois, l'une des erreurs, et Patrick Zénik le montre bien, l'une des erreurs du marché du disque, ça a été de croire au jeunisme, de croire que la musique c'était un truc de jeunes uniquement. C'est faux.
Donc vous, vous êtes plutôt défavorable à ce genre de choses que la carte
La
musique
carte
jeune.
musique, non, favorable, ça ne veut rien dire. Si elle aide le marché, tant mieux. Mais je pense qu'elle aura un impact moins important qu'on ne peut le penser. Enfin, qu'en tout cas, c'est prometteur.
Alors une autre mesure enfin qui était imaginée
La
par
gestion
Patrick
collective.
Zelnick, c'était la sorte de taxe Google, c'est-à-dire de taxer les entreprises.
Ah.
C'est une fausse solution, ça?
Alors, c'est une fausse solution. Je pense que c'est techniquement une solution très compliquée à mettre en place. Hein? Pas impossible. Beaucoup de gens ont dit qu'elle était impossible. Moi aussi au départ, puis après je me suis ravisé. J'ai regardé, en fait c'est possible en effet. Mais elle va être très compliquée à mettre en place. Et deuxièmement, elle aura un produit, pardon, qui sera, je crois, qui est estimé à 28 millions d'euros. C'est ridicule. On va mettre en place des usines législatives en place pour, et financières. Et fiscal pour aller chercher 28 millions d'euros, franchement, c'est un peu ridicule.
Est-ce qu'on est arrivé maintenant à un point de non-retour? C'est-à-dire, aujourd'hui, on a la possibilité de consommer de la musique de manière totalement illimitée. Est-ce que les consommateurs vont accepter de revenir à un modèle de consommation limité? Ou est-ce que, y a un point de non-retour qui était franchi qui fait que les consommateurs n'accepteront dans l'avenir que des offres illimitées?
Ah non, les offres illimitées, ça marche pas du tout.
Bah, enfin, pour l'instant, peu d'offres illimitées ont été lancées, donc c'est difficile de savoir.
Ouais, elles ont pas du tout marché. Non, non, pas de peu. Non, non, c'est pas vrai. Aux États-Unis, ils en ont fait plein. C'est aux États-Unis, ça s'appelle All You Can Eat, ce que vous pouvez manger. Et il y en a eu plein. Il y a eu Yahoo Music Unlimited, il y a eu Rhapsody. Enfin bref, pour les plus connus. En France, il y en a eu 3 ou 4 lancés par Orange,
Le
SFR,
problème, c'est pas les DRM par hasard.
Vodafone. Non, les DRM, ça ne concerne que des gens qui s'y intéressent. La plupart du marché grand public ne sait même pas de quoi il s'agit. Et ça n'a jamais marché. Les All You Can Eat, ça ne marche pas. Mais pour une raison très simple, hein, c'est que il n'y a pas énormément de production de musique qui vous intéresse vraiment. Voilà, le marché de masse du disque est intéressant s'il y a énormément de gens qui aiment énormément de références. Là, vous avez un marché sain et qui va croître parce que les gens, chacun va acheter plein de choses différentes par rapport aux autres. Mais personne n'achète toutes les références.
Vous pensez
Si
donc
personne n'achète
que
toutes les références, les offres All You Can Eat, elles ont un intérêt très limité. Elles ont un intérêt, mais il est très limité. C'est pas ça qui fera grossir le marché.
vous pensez que ce sera plus des solutions comme iTunes qui vont marcher dans le futur?
Moi, je ne pense rien. Je regarde quel est le marché. Aujourd'hui, le marché, c'est iTunes. Et qu'est-ce que présente iTunes? Qu'est-ce qu'il propose au consommateur? Il propose de le laisser dans les paradigmes qu'il connaît. C'est j'aime quelque chose, je l'achète, je l'écoute, je l'ai, ça m'est garanti. C'est exactement la même chose que le CD. Et là-dessus, le consommateur réplique ce qui est le marché du CD aujourd'hui sur le marché iTunes. Et ma formule, elle est assez simple, c'est de dire que le marché de la musique enregistrée jusqu'à présent, c'était un marché monosupport, celui du CD. Avant le disque, la cassette, le CD, c'était monosupport. Aujourd'hui, le marché dématérialisé de musique est un marché monomarque. C'est iTunes.
Pascal Naigh martèle tout au long de votre livre que le futur de la musique réside dans le modèle de l'abonnement, c'est-à-dire une somme d'argent contre un accès illimité à un genre musical, voire l'intégralité du catalogue. Est-ce que vous en savez
Ouais.
un peu plus depuis l'écriture du livre? Par exemple, ce que pourrait attendre Universal avant de lancer ce genre d'offre qu'on ne voit toujours pas débarquer sur le marché. Ou
Si, si, ça
encore
a été
une.
proposé, mais ça n'a pas marché encore une fois. C'est les mêmes que les All You Can Eat. Il y en a eu pas mal des offres par abonnement qui, voilà, qui proposaient de s'abonner pour une somme forfaitaire mensuelle et puis vous pouviez consommer tout ce que vous voulez. Mais là, encore une fois, à de très rares exceptions près, il y a peu de gens qui peuvent être financièrement intéressés par des offres qui vous font dépenser 100, 120 euros par an. Parce que c'est des offres en général à peu près 10 euros par mois. Le problème, c'est que c'est une somme, une consommation qui correspond à un chiffre extrêmement faible du marché de la musique. Le marché de la musique, c'est un CD par an et par habitant. C'est pas 120 euros, c'est entre 15 et 20 euros. Donc, si vous voulez abonner les gens en disant ah mais finalement c'est ce qu'ils veulent, regardez, ils vont sur le peer-to-peer et c'est des gros téléchargeurs. Non, c'est pas vrai. Sur le peer-to-peer, c'est pareil, ils téléchargent 5 à 6 morceaux ou 5 à 6 albums par mois en moyenne. C'est très faible. Donc les All
Donc
You Can
payer ou pas
Eat ou
payer, c'est
les
pas un
offres
problème
par
pour le
abonnement.
consommateur.
Non, parce que le but du jeu, c'est d'avoir la musique. Après, comme je vous dis encore une fois, payer, c'est une question de consentement sur la valeur. Je me répète, mais c'est toujours la même chose. Donc le consentement sur la valeur, ça s'obtient autrement. Ça s'obtient par des promotions, ça s'obtient enfin, par la promotion de la musique, par le marketing autour de la musique, autour de l'artiste, de réussir à le faire suffisamment aimer, et deuxièmement, avoir l'équipement. C'est-à-dire que les gens puissent obtenir cette musique facilement. Encore une fois, avoir la musique bien encodée, du bon album que vous voulez sur le peer-to-peer, c'est chiant. Ça prend du temps. Faire la même chose sur iTunes, c'est instantané. Le problème est donc un problème d'équipement. Et un problème de consentement sur la valeur.
Ouais, non, non,
D'ailleurs, le
c'est
peer-to-peer
un.
n'est pas un truc si développé que ça. L'une des raisons pour lesquelles il n'est pas tant développé dans les couches. Enfin, je veux dire, dans la très forte proportion de la population, c'est parce qu'il est relativement insatisfaisant.
Et compliqué.
Oui, insatisfaisant. Ça regroupe tout ça.
C'est pour ça que des solutions comme la licence globale n'auraient vraiment pas été attractives.
Mais bien sûr, mais la licence globale pose toujours le même problème. Les gens qui sont sur le peer-to-peer ne veulent pas acheter. C'est pas parce que vous leur avez proposé quelque chose à 5 euros que tout d'un coup ils vont se mettre à le payer. C'est absurde. Donc la licence globale, le problème, si vous résolvez le problème de la licence globale, c'est-à-dire que vous imposez aux gens, vous leur faites accepter qu'ils vont acheter pour avoir de la musique, elle n'a plus aucune raison d'être. Autant qu'on reste dans une liberté de choix. C'est-à-dire que moi, je préfère avoir le choix d'acheter ou de ne pas acheter, quand même, mince. Je veux pas qu'on m'impose de payer tous les mois quelque chose. Ce n'est pas mon choix.
Ah, je crois que vous avez mangé du
Quoi?
Daft Punk là. C'est moi ou
Non,
c'est vous?
j'ai. Non, moi
Vous entendez un grésillement
Enfin.
ou?
Non, non, moi ça va. Non, je disais que la licence globale ne laissait pas le choix. Dans un process de licence globale, vous payez un point, c'est tout. Et après, vous êtes libre de consommer. Non, moi je veux avoir le choix de pouvoir consommer au moment où je le veux. Et donc de payer aussi au moment où je le veux et ne pas avoir de fil à la patte. On est dans un marché d'offres, on n'est pas dans un marché d'abonnement. On n'est pas dans un marché d'obligation et je préfère que le marché de la musique reste ce marché du choix et de la liberté.
Le consommateur, est-ce qu'il dicte un peu plus sa loi qu'il y a 10 ans? Est-ce qu'il est un peu plus en position de force? Est-ce que, en somme, on va passer d'un marché dont les lois sont fixées par l'offre à un marché dont les lois sont fixées par la demande? Est-ce que les offres qui
Je
vont
vois
naître
pas.
sur Internet devront être un peu plus basées sur l'intérêt du consommateur qu'auparavant?
Oui, mais ça, c'est la règle du jeu. Elle l'était aussi avant.
Mais est-ce qu'elle est plus valable, elle est plus valable maintenant qu'avant?
Je sais pas. Je ne sais pas jusqu'à quel point tout ça n'est pas un fantasme de marketing. C'est-à-dire, faire croire aux gens qu'ils ont plus la main, c'est quand même le nec plus ultra du marketing. Donc, une manière d'imposer.
On
Mais
continue.
là-dessus, j'ai pas des idées suffisamment claires pour vous répondre. Je pense que ça fait beaucoup partie du fantasme. Voilà. Et le fantasme
Alors, une des dernières
lié à
questions qui me paraît.
Internet.
Alors, une des dernières
Ouais, je veux
questions
bien
qui
parce
me
que je
paraît
fatigue
très.
un peu.
Comment?
Je dis oui, je veux bien parce que je commence vraiment à fatiguer.
Pourquoi est-ce que les majors ont-ils perdu 10 ans en lancer d'offres digitales qui n'ont pas marché parce que probablement pas assez avantageuses et pas assez conviviales en termes d'interface? Pourquoi est-ce
Parce
qu'ils
qu'elles
n'ont
ont voulu
jamais...
maîtriser ces... Parce qu'elles n'en avaient pas les compétences et qu'elles ont voulu les maîtriser, ces plateformes, et qu'elles ne savaient pas faire, et que la solution est venue d'un acteur qui ne faisait pas partie de l'industrie de la musique, mais qui avait une compétence à comprendre le marché digital, le marché dématérialisé. Voilà. La solution ne pouvait venir que de l'extérieur, et elle ne pouvait venir que d'un acteur qui connaissait l'informatique, et le rapport que le consommateur a avec l'ordinateur, avec le monde virtuel. Elles n'en avaient pas les connaissances, les majors, elles ne savaient pas comment faire. Elles ont essayé, elles se sont plantées.
Juste avant de nous quitter, parlons un peu des DRM qui sont critiqués de partout et qui commencent à être enlevés. Tout le monde s'accorde
Ah
à
bah il y en
dire
a même
que
plus,
les
hein.
D... Oui, tout le monde s'accorde
À
à dire
part sur
justement
les
que les
offres à
DRM ont
abonnement.
été. Bah oui, sauf les offres par abonnement, mais est-ce que le fait d'enlever des DRM peut éventuellement. Enfin, je me dis que les offres d'abonnement, ceux qui seraient les plus intéressés, ce seraient les mélomanes. Et le fait qu'il y ait des DRM, ça. Comment dire? Ça désavantage l'offre par abonnement parce que le méloman ne voudra sûrement pas de DRM et la plupart des offres d'abonnement, sauf Rhapsody, je crois, ont des DRM. Donc est-ce que
Très
ce...
franchement, le passage sur l'offre à l'acte du non DRM, du DRM au non DRM, ça n'a pas été l'explosion de l'offre, hein. Pas de la demande, pardon. Il n'y a pas eu d'explosion de la demande, il n'y a pas eu d'explosion des ventes au moment où ces gens, enfin, où les maisons de disques ont accepté, notamment sur iTunes, et malgré la promotion qu'ils en ont fait, hein, ça a été une grosse communication de la part d'Apple, ça n'a pas fait bondir tout d'un coup les revenus digitaux, hein. C'est pas vrai du tout. Quant au mélomane, je pense qu'il n'en a rien à fiche aussi, puisque le DRM n'implique absolument rien sur la qualité audio du fichier. Donc,
Oui, mais il peut le
là-dessus, non,
transporter
il n'y a
partout.
pas. Mais il pouvait le transporter. Le DRM, il peut le transporter partout, c'est une question d'échange, ce n'est pas une question de transport. Mais encore une fois, le DRM a été un. Moi, je m'y suis assez opposé quand j'étais journaliste au Figaro à l'époque. On a parlé d'AdVSI, la loi d'AdVSI, et où. Renaud Denodieu-Devable, le ministre de la Culture de l'époque, a cherché absolument à centrer le débat politique sur la question des DRM parce qu'il avait l'impression que les consommateurs le demandaient. C'est faux. Les associations de consommateurs l'ont demandé, mais les associations de consommateurs, l'UFC Que Choisir et tout ça, ne sont représentatives de rien. Ce sont des lobbies.
Pourquoi ils
Ils
auraient
sont
demandé des
représentatifs
DRM?
d'aucun consommateur. Parce que ça a été pour eux une manière assez simple de se montrer et de faire une communication évidente, c'est-à-dire il n'y avait pas d'argument pour le DRM, il n'y avait que des arguments contre. Donc à partir de ce moment-là, et vous aviez l'impression, ou vous donniez l'impression en tant que lobby, de dire, voilà, je devais défendre les consommateurs, regardez, je m'attaque au DRM. C'est totalement faux. Je veux dire, les consommateurs, dans l'immense majorité, ne savaient même pas de quoi on parlait.
Moi, je suis pas forcément d'accord parce que ma mère, qui est pas une power user, on va dire, est devenue en quelques mois sans que je ne fasse rien, une totalement anti-DRM, parce qu'on avait des chansons qu'on ne pouvait pas écouter si on n'était pas connecté à Internet, parce qu'on avait acheté sur le store de Microsoft, enfin sur le store de la Fnac, on ne pouvait pas le transférer sur des iPods ni sur des Arcos parce qu'il y avait plein de problèmes de compatibilité partout. Le principal problème des DRM, je pense que plus que le fait que ça prive de liberté, c'était l'interopérabilité qui n'était pas respectée. Je me trompe.
Bah écoutez, il n'y a pas eu de différence. Entre le moment où il y en avait et le moment où il y en a eu, il n'y en a plus eu, il n'y a pas eu une énorme différence sur le marché. Donc ça devait pas être un frein énorme. Ça a été un gros sujet de discussion, ça a été un gros sujet en général, mais qui n'était pas celui des consommateurs, qui était un sujet entre quelques lobbyistes et les maisons de disques. Mais ce n'était pas
C'est
un
quoi
sujet pour consommateurs.
ce qui intéresse les consommateurs aujourd'hui?
L'offre. Avoir le plus de musique possible qui plaise au plus de gens possible, c'est de
Qu'est-ce qu'il
remettre
faut
la
changer
musique
donc?
aux les méthodes de production. Aujourd'hui, il y a un vrai problème de méthode de production. Alors, je suis désolé, hein, vous m'avez posé plein de questions, j'ai répondu, mais vous étiez relativement dans les tartes à la crème du marché. C'est pas contre vous, je comprends, c'est tout à fait normal, mais le vrai problème du marché, c'est un problème d'offre et de production. Aujourd'hui, on est dans si on veut avoir un marché de masse de la musique dématérialisée, il faut de l'équipement. Ça, c'est en train d'arriver. Et le grand vecteur de la promotion de la musique dématérialisée dans les années à venir, c'est iPhone, qui a une force, une capacité de pénétration du marché des foyers bien plus important que ne l'avait iPod. Donc là-dessus, je vois plutôt un avenir assez radieux à la musique de ce point de vue-là, grâce à iPhone, et qui a un rôle d'évangélisateur beaucoup plus fort qu'à iPod. Et de l'autre côté, c'est la production, c'est-à-dire que les maisons de disques doivent comprendre au bout d'un moment qu'elles ne parlent pas uniquement à des cibles jeunes, qu'elles ne parlent pas uniquement à des gens qui sont, comment dirais-je, fans de un type de musique ou d'autre, que les artistes de leur côté doivent comprendre que faire un album tous les 3-5 ans, parce que vous comprenez, je suis un artiste et j'attends que l'inspiration, ça m'arrive, c'est une erreur absolue. Aujourd'hui, on doit produire de la musique en forte quantité, ce qui ne se fait pas, ou ce qui ne se fait pas suffisamment. Il faut arrêter avec la posture artistique de l'artiste. Voilà, ça c'est un vrai problème. C'est un problème évident de production. Le reste, ça a été des guéguerres entre lobbies. Et ça n'avait aucun intérêt par rapport au marché. Et d'ailleurs, il y
Il
a
faut
un
aussi
type qui a dit
essayer.
les choses très clairement. Il y a un type qui a dit les choses très clairement. Il s'appelait. Merde, je ne me rappelle plus son prénom. Son nom, c'était Hidei. C'était le grand patron de Sony avant l'américain qui est aujourd'hui au. Et qui a dit un truc très clair. Et pourtant, c'était Sony. Hein, donc, il possédait Sony Music. Mais il possédait aussi les chaînes de Hi-Fi. Il était en butte à l'iPod avec sa ligne de Walkman. Il n'y arrivait pas. Et il a dit une chose très claire. Il a dit les maisons de disques, elles doivent produire de la musique, c'est leur métier. Voilà. Et ça, elles l'ont peut-être un peu oublié. Ou en tout cas, elles ont oublié de réformer la manière dont elles pouvaient produire de la musique. Elles sont en train de le faire, mais ce n'est pas encore suffisant.
Ok, oui, une dernière question. Est-ce que le CD, enfin la musique en général, n'est pas en train de devenir un produit saisonnier? Puisqu'on voit de plus en plus des sorties se faire en octobre, en novembre, en décembre pour préparer Noël.
Non,
Parce que quand
non, il
même
a toujours été un produit
85% des ventes de disques
saisonnier.
se font Noël.
Non,
Comment?
non, il a toujours été un produit saisonnier. Ça a toujours été un cadeau. Une grosse partie de la musique, malheureusement, n'est pas écoutée. Elle est achetée, elle est offerte comme un cadeau, et la plupart du temps, en fête de fin d'année, mais elle n'est pas écoutée. La saisonnalité du marché du disque a toujours été. Hein. C'est juste que vous la découvrez maintenant, mais elle a toujours existé.
Ok, et ben voilà, bah on a terminé. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci Emmanuel Torregano d'avoir participé à l'émission.
Ben, je vous en prie, merci beaucoup. J'espère que j'ai été assez clair. Et je suis désolé sur la fin, mais je suis fatigué un peu, donc j'étais certainement moins lucide.
Bah non, au contraire. Je rappelle juste le titre de votre livre, c'est Vive la crise du disque au carnet de l'info.
Ouais.
Rendez-vous à vous auditeurs normalement dans 2 semaines avec Phil qui sera enfin de retour. Sur un sujet qu'on connaît toujours pas, mais vous le saurez en temps voulu. Ciao, ciao!